Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, les mots d'Emmanuel Macron pour les harkis.
Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon.
Et le président de la République promet une loi de reconnaissance et de réparation. Nous allons à l'Élysée dans un instant. Comment la Chine influence le reste du monde ? Rapport très détaillé et saisissant, révélé par France Inter. 2 millions d'influenceurs à plein temps sur les réseaux sociaux, des bâtiments officiels construits et surveillés de près en Afrique, un soutien aux indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. L'un des auteurs de ce rapport est avec nous. Le Réalo et la Radicale, Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, au deuxième tour de la primaire écologiste. Ils étaient tous les deux sur France Inter ce matin. Résultat très serré, issue incertaine. Alors que les candidatures se multiplient, parole de militants de gauche toute la semaine dans le feuilleton à 13h50. Jusqu'où vont grimper les prix de l'énergie ? L'association de consommateurs UFC alerte sur une possible nouvelle hausse de 10% de l'électricité au début de l'année prochaine. La mort de Françoise Bernard, ses livres de recettes faciles sont encore dans beaucoup de cuisines. Elle avait 100 ans. Vos autres rendez-vous dans le 13-14. Est-ce qu'on progresse dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer ? À la veille de la journée mondiale, l'un des meilleurs spécialistes français est notre invité à 13h30, le professeur Dubois. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Ne détruisez pas la prison de Clairvaux. C'est un pan très important du patrimoine français. Tribune ce matin dans la presse à propos de cette ancienne abbaye devenue prison. Ce sera le vif de l'histoire. Et puis dans C'est une chanson, Clarica est au micro de Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Discours, gestes ou mesures, tous les présidents depuis Jacques Chirac ont tenté d'apaiser la blessure de la communauté harkie sans jamais réellement y parvenir. Emmanuel Macron a essayé à son tour ce matin lors d'une conférence de presse mouvementée à l'Élysée. Les harkis avaient combattu pour la France lors de la guerre d'Algérie avant d'être abandonnés sur place ou transférés en France dans des conditions bien souvent indignes. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Élysée. Le président a eu des mots qu'il n'avait jamais utilisés jusque-là.
Oui, ce pardon que l'on vient d'entendre et qu'Emmanuel Macron s'était toujours refusé à implorer, que ce soit pour l'Algérie ou le Rwanda plus récemment. Il y a 3 jours encore, l'Élysée assurait que le président ne présenterait pas d'excuses. Mais c'était un impératif moral, explique aujourd'hui l'un de ses proches, face à la singularité du destin des harkis. Cette souffrance que lui crie cette femme assise dans le public, fait rarissime, elle interrompt le discours du chef de l'État. C'est une enfant du terrible camp de Bias dans le Lot-et-Garonne. Emmanuel Macron le sait.
Je ne peux pas, par des mots, réparer 40 ans, que dis-je 60 ans, de la vie de notre nation.
Et alors il accède à une demande historique des associations.
Le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis.
Une loi dont découlera aussi une commission chargée de déterminer le montant des indemnisations. Un texte que l'Élysée veut faire adopter avant la fin du quinquennat. Emmanuel Macron veut acter au plus vite ce pas historique vers les harkis et leurs enfants.
Quand on insulte un harki, on insulte la France.
Des centaines de milliers de Français qui représentent au passage un électorat dragué depuis des décennies par la droite et l'extrême droite.
Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Bruno.
Et merci à vous Simon Le Baron à l'Élysée avec Christophe Papon. Thibault, arrêtons-nous avec vous sur ce que représente cette communauté harkie aujourd'hui en France, près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, en rappelant que les harkis et leurs enfants touchent déjà une somme sous forme de rente en guise de réparation. Leurs enfants aussi donc, mais pas leurs petits-enfants.
Oui, il y a 450 000 personnes harkis selon les historiens, 2 fois plus selon les associations de défense des harkis. Il reste aujourd'hui environ 6 000 harkis sur les 130 000 arrivés dans les années 60 et qui ont vécu jusqu'au milieu des années 70 dans des camps, des cités urbaines ou des hameaux de forestage. Aujourd'hui, ce sont donc ces harkis et leurs descendants directs qui sont indemnisés ou bénéficient d'aides financières de l'État. Mais pour Yamina Chalabi, fille de harkis et membre de l'ARACAN, une des nombreuses associations de défense des harkis, il faut aussi prendre en compte la situation de certains petits-enfants.
Il y a des personnes de la troisième génération qui ont été confrontées aux mêmes difficultés que la première génération. Et cette génération-là a vécu les mêmes traumatismes que la première et la deuxième génération. Donc, plutôt que d'avoir une lecture de génération, nous devrions regarder dans le détail ce qui s'est déroulé au sein des familles de harkis.
Depuis 2005, Bruno, les harkis ou leurs veuves touchent une rente viagère d'un total de 30 000 euros. Leurs enfants ont depuis 2019 le droit à une aide sociale spécifique sous condition de ressources et s'ils ont vécu dans un camp ou dans un hameau de forestage.
Et donc cette nouvelle loi de reconnaissance et de réparation à venir, Simon nous le disait, la dimension politique de l'intervention d'Emmanuel Macron n'échappe pas aux observateurs en ce début d'année électorale. Le premier temps fort de la campagne réserve déjà des surprises. Après le premier tour de la primaire écologiste, les deux qualifiés sont le favori, Yannick Jadot, et celle qui ne semblait qu'une lointaine outsider il y a quelques semaines encore, Sandrine Rousseau. Résultat serré, 27,7% des voix pour Yannick Jadot, 25,1% pour Sandrine Rousseau. Les deux étaient invités de France Inter ce matin. Elle assume un certain radicalisme, il plaide pour une campagne qui permette de gagner.
Moi, ce que je dis à celles et ceux qui sont inscrits et qui ont déjà voté à cette primaire, c'est est-ce que nous voulons gagner ? Est-ce que nous voulons conquérir le pouvoir en 2022 ? Les Françaises et les Français aujourd'hui, ils ont envie d'une alimentation saine et savoureuse dans leur assiette. Ils ont envie qu'on rénove leur logement. Et ils ont envie d'un grand projet qui les réconcilie, qui les rassemble. C'est ça l'enjeu, c'est de gagner cette élection présidentielle. Pour une fois, les écologistes peuvent le faire. Et ben moi, je veux que ça marche.
En l'occurrence, l'écologie de gouvernement, on l'a vu. Ça fait 20 ans qu'on la voit. Et finalement, elle ne transforme pas notre pays. Aujourd'hui, l'écologie réaliste, c'est celle qui transforme nos modes de production, qui sortent du productivisme, qui sortent de la société de consommation, qui sortent aussi d'une société qui abîme la nature, mais qui abîme les humains. Aujourd'hui, il nous faut au contraire avoir une ligne claire et une ligne ambitieuse pour modifier nos politiques publiques et faire en sorte que l'on sorte du consumérisme et d'une forme de surexploitation de tout, des ressources naturelles comme des êtres humains.
Les deux interviews sont à réécouter en détail sur franceinter.fr. Sur les plus de 122 000 inscrits à cette primaire écologiste, 106 000 personnes ont voté. Deux autres candidats sont tout près des qualifiés pour le second tour. 22% des suffrages pour Delphine Bateau et Éric Piolle. Ils ne donnent aucune consigne de vote. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Laurence, vous suivez cette primaire écologiste pour France Inter. C'est un second tour plein d'incertitudes qui se profile.
Oui, très compliqué de faire des projections. D'abord parce qu'on n'a aucune information sur cet électorat qui excède largement les adhérents écologistes. Ensuite parce que les perdants, à l'exception de Jean-Marc Governatori qui a appelé à voter Jadot, à cette exception qui ne pèse pas très lourd, ni Delphine Bateau ni Éric Piolle n'ont donné de consigne de vente. Au vu de la radicalité portée par l'ancienne ministre de l'écologie, des croissances, lutte contre le patriarcat, changement des institutions, les électeurs baptistes, comme on les appelle, pourraient se retrouver aisément dans l'écoféministe Sandrine Rousseau. Plus difficile de lire dans l'électorat piolliste. Éric Piolle a porté l'ISF climatique, une rupture avec le modèle capitaliste, mais force est de constater qu'en 6 ans de responsabilité à Grenoble, le maire n'a ni tondu les entreprises, ni les fortunes de l'Isère. Plus sérieusement, il incarne comme Yannick Jadot une écologie des solutions, de l'espoir, dit-il, et présente en réalité un profil complémentaire avec celui de Yannick Jadot. La direction du parti, qui lui était très favorable, n'est pas en bon terme avec Sandrine Rousseau, qui a souvent dénoncé le manque de soutien dans l'affaire Baupin, ce qu'il conteste. Enfin, vous l'avez dit, plus de 16 000 inscrits à la primaire n'ont pas voté. Alors quand on est sur des scores de 23 à 27 000, eh bien ça compte. Si ces abstentionnistes se réveillent, personne ne peut dire à cette heure à qui cela profitera.
Et le second tour aura lieu entre samedi prochain et le mardi suivant. Vous parliez de Jean-Marc Governatori, il a obtenu 2% des suffrages. Le budget énergie de beaucoup de Français est en train de gonfler en ce début de campagne électorale. Le prix de l'essence sans plomb 95 a grimpé de 20% en un an. Les tarifs réglementés du gaz ont bondi de 40% depuis le début de l'année. Et maintenant l'électricité. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, la facture d'électricité va s'alourdir très sérieusement au début de l'année prochaine.
Oui, plus 10%, l'UFC Que Choisir fait les comptes. La hausse des prix de l'électricité s'annonce douloureuse en février. Plus de 10%, ça représente 150 euros de plus sur une facture annuelle. Et ce n'est qu'une moyenne, certains ménages paieront beaucoup plus, explique Alain Bazou, le président de l'association de consommateurs.
Il y a un environnement à la hausse qui est sans précédent. Ceux qui se chauffent à l'électricité et qui n'ont pas de logement isolé, là, c'est assez terrible. Par rapport, j'allais dire, au sparadrap que met le gouvernement avec un chèque à 200 euros, on est loin du compte.
problème. De plus en plus, les prix de l'électricité en France dépendent des marchés de gros internationaux. Or, le prix du mégawattheure flambe en cette fin d'année. On vole même de record en record. L'UFC Que Choisir appelle donc une nouvelle fois le gouvernement à utiliser les moyens dont il dispose pour juguler cette augmentation.
Le gouvernement a un levier, c'est de permettre à ce que les fournisseurs alternatifs puissent accéder davantage à un tarif qui s'appelle le tarif de l'AREN. Et ils ne peuvent pas parce que ce montant est insuffisant. Et donc ils vont chercher ailleurs et ça se répercute, c'est un peu compliqué, mais ça se répercute sur le tarif réglementé. L'augmentation là qu'on a chiffrée à 10%, elle serait ramenée à 1,5%.
Ce levier, le gouvernement n'a jusqu'ici pas voulu l'actionner. Quant au médiateur de l'énergie, lui, il alerte déjà les pouvoirs publics sur l'explosion des impayés de factures.
Merci Delphine Simon. La semaine dernière, l'INSEE constatait une hausse globale des prix à la consommation de 2,2% sur un an.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
C'est un rapport de 650 pages qui dit à quel point la Chine tisse son réseau dans le monde entier et n'hésite pas pour cela à recourir à la manipulation. 2 ans de travail réalisé par l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. France Inter et franceinter.fr vous révélaient ce matin son contenu en primeur. 2 millions de commentateurs payés à plein temps pour intoxiquer le web et les réseaux sociaux. 20 millions employés à temps partiel. La Chine cherche à influencer le cours des événements à Taïwan et Hong Kong. Bien sûr, elle espionne l'Afrique via ses activités de BTP et télécom. En Europe, la France n'est pas la cible prioritaire, mais pas épargnée non plus. Et ce rapport tombe à point en pleine crise diplomatique. L'Australie, qui abandonne les sous-marins français et fait alliance avec les États-Unis pour mieux affronter justement la menace chinoise. Bonjour Paul Charron.
Bonjour.
Vous êtes l'un des auteurs de ce rapport. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur de ce que vous avez découvert ?
Oui et non. Non, parce que ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur la Chine. Et oui. Donc, même si on en parlait peu, on savait un certain nombre de choses. On connaissait l'ampleur des opérations menées à Taïwan, par exemple, qui sont très anciennes. Hein. C'est des opérations qui existent depuis la fin de la guerre civile et l'installation des nationalistes à Taïwan. Oui. Donc on savait que tout ça existait. Et oui, parce que on a été frappé par l'ampleur du répertoire d'action de la Chine. Alors on devrait dire le Parti communiste chinois, oui, plutôt que la Chine. Voilà l'ampleur géographique. Hein, donc au début c'était sans doute Taïwan, l'environnement immédiat, et maintenant
c'est sur tous les continents.
Et maintenant c'est sur tous les continents à des degrés divers, mais oui.
Alors exemple concret, tournant 2019-2020, le début de la pandémie de Covid, la Chine fait tout pour accréditer que cette épidémie ne vient pas de chez elle, mais d'Amérique. Comment fait-elle ?
Alors, elle utilise plusieurs moyens, mais le canal principal, c'est la récupération d'une opération mise en œuvre par les soviétiques, le KGB, et plus précisément le service A de la première direction générale, qui était chargé des opérations de mesures actives, c'est-à-dire des opérations de subversion, désinformation, etc. Et en 1983, le KGB tente de faire croire que le virus du sida a été fabriqué par l'armée américaine à Fort Detrick, dans une base spécialisée sur ce type d'opération, pour décimer les populations homosexuelles et afro-américaines. L'opération va tellement bien prendre, via des médias contrôlés par le KGB, des faux témoignages, enfin des lettres anonymes qui sont en fait des fabrications du KGB. Ça va tellement bien prendre que finalement les médias américains vont reprendre cette idée, etc. Et aujourd'hui encore, on trouve cette idée-là dans des raps, ceux de Kanye West par exemple.
Et donc la Chine s'est servie de ce modèle ?
Tout à fait. Non seulement elle a copié le modèle, c'est-à-dire que c'est le même modus operandi qu'on retrouve dans l'opération chinoise, c'est pour ça qu'on l'a baptisé Infection 2.0, oui, mais aussi elle a accusé la même base, Fort Detrick, pour donner corps à son récit. Donc elle récupère.
Comme quoi, il y a bien une histoire de l'intoxication et des couches successives,
oui,
qui se...
Et des transferts de compétences. C'est-à-dire que la Chine apprend de la Russie actuelle, oui, on le sent sur les réseaux sociaux, mais elle apprend aussi du répertoire d'action, du modus operandi des soviétiques dans les années 80.
Que cherche la Chine ? Alors là, on citait l'exemple de la Covid, mais globalement, que cherche la Chine dans ces opérations ? Elle cherche à accréditer un discours, à gagner des parts de marché en termes de business. Il y a un aspect militaire aussi à ces opérations ?
Alors elle cherche tout ça, Mais le plus important, c'est ce que la Chine veut faire, ce que le PCC veut faire, c'est assurer la pérennité de son régime. Ça, c'est vraiment important, oui. il faut le comprendre. L'objectif premier, c'est d'éliminer toute alternative crédible au système chinois, au modèle chinois, c'est-à-dire au monopole exercé par le PCC. Et ça nécessite une guerre des récits. Pour montrer que la démocratie ça fonctionne pas, que le système chinois est bien meilleur que les autres, etc.
Alors l'Europe n'est pas épargnée, la porte d'entrée en Europe c'est la Suède. On détaille cela d'abord avec notre correspondante à Stockholm, Anne-Françoise Hiver, et puis on vous écoutera. Ça passe par un ambassadeur chinois nommé en 2017.
Il s'appelle Guy Gongqiu, il a été nommé en juin 2017. Expert de la Russie, ce n'est sans doute pas un hasard, depuis qu'il est là, il n'arrête pas. Critique des médias et des politiques, menaces contre les journalistes, provocations en tout genre, Guy Gongqiu a été convoqué une quarantaine de fois par le ministère des Affaires étrangères à Stockholm, sans effet. Alors pourquoi la Suède, très en pointe sur la défense des valeurs démocratiques en concurrence avec la Chine dans des secteurs clés, Pékin l'aurait choisi pour y tester sa stratégie de déstabilisation avant de l'étendre en Europe. Sauf que les résultats sont très mitigés. L'attitude de l'ambassadeur suscite un rejet massif dans l'opinion publique. Les médias locaux n'hésitent pas à publier des articles très critiques sur le pays. Stockholm a même décidé de boycotter l'équipementier Huawei. Bref, si la Suède avait été identifiée par Pékin comme un maillon faible en Europe, la stratégie, souvent grossière, semble avoir eu des effets largement contre-productifs.
Paul Charron, co-auteur de ce rapport pour l'IRSEM, vous êtes toujours avec nous. Avant de parler de Suède, une date 2017, ça semble s'être accéléré en 2017. Pourquoi à ce moment-là les opérations chinoises ?
À vrai dire, alors il y a une continuité très forte ces dernières décennies, avec une accélération après la prise du pouvoir par Xi Jinping.
Alors,
pas seulement à cause de sa personnalité, mais aussi parce que ça se conjugue avec un accès à la puissance et la capacité de la Chine à assumer cette puissance aujourd'hui. Et puis un certain nombre d'événements ensuite ponctuels qui ont conduit les Chinois à s'orienter vers ce type de stratégie.
Est-ce que la France est épargnée ?
Non, pas du tout. Alors, on n'a pas détecté d'opérations massives telles qu'infection en France, même si la France était aussi visée, notamment la diaspora chinoise, il ne faut pas l'oublier, en France.
Ouais.
C'est-à-dire que la Chine, le PCC, mènent des opérations distinctes en fonction de certains segments de population. Et la diaspora chinoise vivant en France est une des cibles privilégiées du PCC. Donc la France n'est pas épargnée par différents leviers tels que les centres de recherche, les instituts Confucius, etc.
Voilà, vous mentionnez l'IRIS, le centre de recherche de Pascal Boniface. Vous mentionnez aussi l'organisme de Jean-Pierre Raffarin. Très concrètement, vous leur reprochez, entre guillemets, quoi ? Comment l'influence chinoise peut-elle pourrait-elle passer par ces deux personnalités, ces deux structures ?
Alors, nous, on leur reproche rien. On fait juste un constat très simple. C'est qu'il y a un certain nombre de centres de recherche, un certain nombre d'institutions de ce type qui collaborent, qui coopèrent avec l'ambassade de Chine, avec des structures rattachées au parti, telles que le Front Uni ou le Département des Liaisons Internationales, parfois les services de renseignement chinois, et qu'ils véhiculent les matériels narratifs fournis par l'ambassade.
Uniquement ces matériels narratifs ou
non,
est-ce que,
pas du tout, voilà. pas du tout. Mais si vous assistez à ce type d'événement organisé en partenariat avec l'ambassade, entre l'IRIS et l'ambassade par exemple, vous allez y trouver essentiellement une condamnation des États-Unis, l'apologie du modèle chinois, donc il y a assez peu d'esprit critique, et c'est juste sur ce point qu'on a signalé.
C'est noté. En un mot, puisqu'on parle beaucoup de la zone Indo-Pacifique, Asie-Pacifique, pardon, en ce moment, la tentative d'influence en France passe par la Nouvelle-Calédonie.
Alors pas uniquement, c'est une des cibles,
Biais.
Voilà, disons que les Chinois, le parti cherche à étendre son influence en Asie-Pacifique. La Nouvelle-Calédonie est sur sa route, mais bien évidemment.
Et donc soutien aux indépendantistes.
Voilà, alors là, le PCC passe par des associations d'amitié, comme il le fait dans tout un tas de pays, parce que ça permet, si vous voulez, de rendre un peu plus invisibles les opérations d'influence.
Merci beaucoup, Paul Charron, d'être venu dans les studios de France Inter. Le détail de ce rapport, on le trouve sur franceinter.fr. Et puis, il y aura d'autres éléments, évidemment, dans nos journaux. Ce soir, on entendra notamment Pascal Boniface, qu'on a joint, pour répondre à ce rapport. Alors, l'importance accordée à la menace chinoise dans les relations internationales, eh bien, l'épisode des sous-marins australiens l'illustre ô combien. Le d'habitude très placide ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a continué d'exprimer publiquement sa colère ce week-end. Mensonge, duplicité, mépris. Les ambassadeurs français aux États-Unis et en Australie rappelés, une réunion entre ministres français et britanniques de la Défense annulée. Reste cette question, Bertrand Galichet, quelle porte de sortie après la colère et alors que s'ouvre l'Assemblée générale de l'ONU demain à New York?
Eh bien, cette réunion aux Nations Unies ouvre à la France une fenêtre de tir pour sortir de l'ornière diplomatique dans laquelle l'ont précipité l'Australie et les États-Unis. Première étape après sa réaction instantanée, à savoir le rappel des ambassadeurs, la France doit reparler avec Canberra et surtout Washington, sans oublier Londres. Mais il faudra aussi poser des conditions à la poursuite de la coopération, car cet épisode doit servir de leçon. Jean-Yves Le Drian le sait, qui arrive à New York dans les prochaines heures. Un entretien téléphonique Biden-Macron est prévu cette semaine. Ce sera une façon purement formelle de renouer, sans illusion. Et puis, deuxième étape plus importante, poursuivre avec d'autres la stratégie française dans cette zone indo-pacifique, avec l'Inde d'abord. Le ministre français des Affaires étrangères et son homologue indien se sont parlé samedi pour insister sur la solidité du partenariat stratégique entre les deux pays. Enfin, la France pourrait approfondir sa coopération dans la région avec des États comme l'Indonésie ou la Corée du Sud, mais Paris doit aussi faire un constat. La France ne peut compter sur aucun soutien en Europe.
Et les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne devraient se réunir dans les heures à venir pour parler de ses relations avec l'Australie. Les affaires continuent malgré tout. Alstom en France signe un contrat pour la construction de 25 trains de banlieue à Melbourne, 300 millions d'euros. Il est vrai qu'on est loin des 56 milliards des sous-marins. Ce type de drame survient régulièrement aux États-Unis, mais aussi ces dernières années en Russie. 6 personnes sont mortes lors d'une fusillade dans une université aujourd'hui à Parme, dans l'Oural, dans le centre du pays. Le tireur a été arrêté. Russie, où se tenaient des élections législatives ce week-end, près de 50% des voix pour le parti de Vladimir Poutine. Russie unie, selon des résultats encore partiels. L'opposition dénonce des fraudes massives et l'Union européenne un climat d'intimidation et le manque d'observateurs internationaux. Autres élections législatives, c'est aujourd'hui au Canada. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Les bureaux de vote, Hélène, viennent d'ouvrir sur la côte atlantique, Terre-Neuve et le Labrador en premier lieu. Alors le Premier ministre Justin Trudeau remet son mandat en jeu. Il a tenté un coup de poker cet été à un moment où les sondages lui étaient favorables. À l'image d'un Tony Blair ou d'un Barack Obama avant lui, il incarnait à son arrivée au pouvoir en 2015 une gauche jeune et dynamique. Sauf que 6 ans plus tard, Hélène, le vent a tourné. La fin de campagne a été délicate pour Justin Trudeau.
Oui, le Premier ministre libéral sortant espérait un référendum pour saluer sa bonne gestion de la pandémie. Belle performance du Canada en termes de vaccination et beaucoup d'argent dépensé pour pallier la crise économique. Raté, la campagne s'est transformée en référendum anti-Trudeau. En cause, son bilan, discutable par exemple sur la lutte contre le réchauffement climatique, son plan de relance économique jugé trop dispendieux par la droite ou encore l'inutilité d'un tel scrutin en pleine quatrième vague de Covid. Et puis, l'image de Justin Trudeau, fringant cadre qui a déboulé en politique en 2015, a été depuis largement écornée par quelques scandales éthiques. Ajoutez à cela des manifestations parfois violentes d'antivax venues perturber sa campagne du jamais vu au Canada. Justin Trudeau ne s'attendait sans doute pas à ce que son coup de poker pour retrouver une majorité prenne cette tournure-là.
Et face à lui, le conservateur peut croire en la victoire, Hélène. Il a 2 ans de moins que Trudeau, 48 ans, c'est Erin O'Toole.
Pour qui ce serait une divine surprise, car Erin O'Toole, récent leader du Parti conservateur, était largement méconnu de ses concitoyens au déclenchement des élections. Mais sa personnalité, débonnaire et surtout le virage centriste qu'il a imposé à la droite canadienne sur l'avortement ou encore l'environnement pourrait séduire des électeurs avides de changement. En tout cas, sortie piteuse de la scène politique ou pari gagné sur le fil du rasoir, Justin Trudeau sera ce soir fixé sur son sort.
Hélène Jouan à Montréal. Pour France Inter, les bureaux de vote sur la côte ouest fermeront au milieu de la nuit, heure française, 4h du matin. Dans la lutte contre le cancer de la prostate, 50 000 diagnostics par an en France. Une avancée majeure est mise en avant après le congrès européen du cancer. Elle concerne les malades dont le cancer est déjà métastasé, 5 000 patients en France. L'utilisation conjointe de 3 types de médicaments permet de leur faire gagner 2 ans et demi d'espérance de vie, de 2 à 4 ans et demi, en administrant donc en même temps chimiothérapie et 2 types d'hormonothérapie. Véronique Julia, vous avez soumis cette bonne nouvelle au responsable de la principale association de malades.
Une survie sans progression qui passe de 2 ans à plus de 4 ans et demi pour des cas très graves, c'est une amélioration très nette. La survie globale des patients les plus sévères est également rallongée. Elle passe de 3 ans et demi à 5 ans. La présentation de cette étude par le professeur Fizazit Gustave Roussy va donc faire date et permettre de changer les protocoles de traitement. Dans les mois qui viennent, la nouvelle prise en charge des cancers de la prostate métastatique va donc consister à combiner 3 traitements, une chimiothérapie et 2 hormonothérapies, car c'est ça qui donne ces bons résultats. Applaudissements donc de Roland Muntz, le président de l'association Anamacap, qui fédère des centaines de patients. Mais attention, dit-il, combiner 3 traitements, ça reste lourd pour des patients.
Doubler la survie, c'est quelque chose de fantastique. Mais j'ai jamais vu un patient qui était volontaire pour avoir de la chimiothérapie. La nouvelle génération d'hormonothérapie a des effets secondaires aussi. Vous combinez tout ça dans un cocktail.
Roland Muntz, qui milite de son côté pour un dépistage beaucoup plus massif du cancer de la prostate, il n'est d'après lui pas assez systématisé. Or, pour éviter d'en arriver à dépister à des stades métastasés aussi graves, il faut davantage dépister.
Il y a beaucoup de controverses autour de l'outil du dépistage qui s'appelle le PSA. Mais en faisant ce dépistage intelligent, on diminue la maladie métastatique de 75%.
50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France, 10% avec métastase.
Autre sujet de santé, ô combien la maladie d'Alzheimer, journée mondiale demain. Dès aujourd'hui, 13h30, toutes vos questions à l'un des meilleurs spécialistes français. Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. À propos de lutte contre le Covid, les laboratoires Pfizer et BioNTech affirment que leur vaccin est sûr et bien toléré par les enfants 5 à 11 ans. Réponse immunitaire robuste. Ils envisagent de soumettre ces données aux autorités dès que possible. La bonne cuisine ne lui avait manifestement pas fait de mal, puisqu'elle a vécu jusqu'à 100 ans. Elle était l'auteur d'un best-seller parmi les livres culinaires, les recettes faciles. Françoise Bernard vient de s'éteindre. Au-delà de son succès en librairie, elle avait fait carrière à la radio et la télévision. En 2012, elle revenait sur le point de départ de cette histoire dans les années 40, auprès de nos confrères de l'Express.
C'était pas ma vocation. J'étais assistante du directeur financier du groupe Unilever. Je me barbais tellement dans la finance que je me suis tournée vers la publicité, toujours dans le même groupe. Il fallait montrer aux femmes qu'on pouvait très bien faire la cuisine, vite fait, bien fait, pas trop cher, tout en travaillant à l'extérieur ou en élevant ses enfants. Je ne mettais même pas de tablier pour faire la cuisine, pour leur montrer qu'on pouvait être maquillée, etc. Et puis on réussissait quand même sans souffler au fromage.
Voilà, et pour rendre hommage à celle qui disait s'adresser à des femmes moyennement délurées en cuisine, Cécilia Arbonnat a joint ce matin la voix de la gastronomie sur France Inter. François-Régis Gaudry.
Moi, je me souviens que dans la cuisine de ma mère à Lyon, mais aussi dans la cuisine de ma grand-mère à Bastia, il y avait le premier best-seller de Françoise Bernard, très en évidence, c'était les recettes faciles. Elle a atteint un chiffre vertigineux d'1 million d'exemplaires vendus. Parce que quand on voulait s'attaquer à des recettes qu'on pouvait considérer comme compliquées, comme la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, mais même des recettes plus modernes, comme le croque-monsieur, ou je me souviens de salade aussi, le réflexe, c'était d'ouvrir le livre de recettes de Françoise Bernard. Je dirais qu'en fait, il y a eu Ginette Mathieu dans la première partie du XXe siècle, et il y aura dans l'histoire de la cuisine familiale, Françoise Bernard, à partir des années 60, et même jusqu'à une époque récente, parce que sa Bible a été récemment rééditée chez Hachette. Et Françoise Bernard a toujours eu, même ces dernières années, autant de succès.
François-Régis Gaudry, l'homme dont on va déguster tous les dimanches, 11h midi, sur France Inter. Hier, il était question du cep, le champignon qui déchaîne les passions. Dans un instant, la météo.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Pour Loïc, recycler, ça coule de source. Sa dernière trouvaille est fabriquée avec des bouteilles plastiques recyclées. Vous voyez de quoi je parle? Je parle de son canapé. Et oui, sur camif.fr, 100% des meubles sont éco-conçus. Camif, changeons le monde de l'intérieur.
France Inter aime.
La 30e Fiesta des Suds. Les 7, 8 et 9 octobre à Marseille. Profitez de l'été indien et plongez dans le plus festif et le plus populaire des festivals d'automne. 3 soirées sur l'esplanade du J4 avec Wookid, Célassou, Meute, The Avener, Balthazar, Hervé, Rocio Marquez, Laurent Barden et Tigre de Douce, Campiré, Ghetto Kumbé et bien d'autres. La 30e Fiesta des Sud, les 7, 8 et 9 octobre. Un événement France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore des averses, Elodie.
Oui, on a souvent un temps instable encore aujourd'hui avec pas mal de nuages, des averses, parfois de l'orage sur le sud-ouest et sur le sud des Alpes. Le risque d'averse est quand même moins important entre le nord de la Seine, la région parisienne et le Grand Est. On a un petit peu de neige sur les Pyrénées au-dessus de 2200 mètres, 2500 mètres sur les Alpes du Nord. Entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, là on trouve plus d'éclaircies, elles sont même très belles sur la Bretagne. En Méditerranée, c'est le soleil qui domine, mais avec du vent. Et puis il fait plutôt frais, hein, du sud-ouest au centre-est, c'est de saison ailleurs. 17 degrés à Clermont-Ferrand, 18 à Cherbourg, Brest, Bourges et Grenoble, 20 degrés à Paris, 21 pour La Rochelle, 24 degrés à Nîmes et 27 à Bastia. Et puis demain, ça va s'améliorer, Bruno. Quelques degrés de plus et plus de soleil au nord.
C'est bien noté. Merci Elodie Calac. Météo France. Jusqu'à 13h45, nous parlons de la maladie d'Alzheimer.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvy.
Maladie qui touche 800 000 patients en France, 140 000 de plus chaque année. Et demain sera la journée mondiale consacrée à cette maladie d'Alzheimer, ainsi nommée parce que le premier scientifique à l'avoir décrite en 1906 s'appelait Alois Alzheimer. Les enjeux scientifiques et de société sont très importants. On dénombre près de 50 millions de cas de démence dans le monde. Tous ne relèvent pas de la maladie d'Alzheimer. Sa définition même n'est pas si évidente pour le grand public. Pour répondre à vos questions et dialoguer avec vous jusqu'à 13h45, l'un des tout meilleur spécialiste français de ce sujet. Bonjour, professeur Bruno Dubois.
Bonjour.
Directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Où en est l'espoir d'un traitement? Il y a ce produit appelé aducanumab qui a reçu l'autorisation de l'Agence américaine du médicament. À quoi sert-il?
Il sert à détruire les plaques amyloïdes qui sont une des deux lésions que l'on observe dans le cerveau des patients. Le problème, c'est que détruire les plaques, c'est bien. Traiter des lésions, c'est bien. Mais guérir des symptômes, c'est mieux. Et il est évident que les médicaments que l'on développe ont pour finalité d'améliorer les symptômes. Et c'est la première fois qu'un médicament détruit à la fois les plaques et semble améliorer un peu les symptômes. C'est un effet qui est limité, mais qui est la première indication qu'enfin, le fait de détruire les lésions a une conséquence sur les symptômes. Et donc, si vous voulez, c'est une porte qui s'ouvre. Parce que, j'ai tendance à résumer ça, on est devant un escalier très haut, oui. Mais ça y est, on commence à monter l'escalier, on est sur la première marche. Il y en a d'autres avant que l'on puisse vraiment arriver à traiter définitivement cette maladie.
Et qui fonctionne ce médicament sur des patients de quel type, qui sont à un stade précoce de la maladie?
Alors, c'est toute la question, c'est que initialement, ces mêmes médicaments étaient étudiés chez des patients plus évolués dans leur maladie et les résultats positifs sur les lésions étaient négatifs sur les symptômes. Et c'est là que nous avons proposé, à l'époque, une nouvelle approche diagnostique permettant de repérer des patients à un stade beaucoup plus précoce. Et en appliquant ces méthodes, on a pu étudier ces mêmes médicaments ou les nouveaux médicaments sur ces patients à des stades beaucoup plus précoces. Et c'est l'approche qui semble être positif puisque enfin on a un signal chez les patients relativement précoces.
Ça représente combien de personnes en France en imaginant qu'ils soient tous traités avec ce médicament? On parlera du coût ensuite.
Alors c'est compliqué parce que si vous voulez, il va falloir que les traitements qui vont pouvoir bénéficier de ce médicament répondent aux critères qui ont été définis dans les études. Mais il y a un travail récent qui vient d'être fait et qui montre qu'il y aurait potentiellement, c'est difficile à dire. Ouais. C'est difficile à dire parce qu'il va falloir faire des liquides céphalo-rachidiens, des ponctions lombaires pour s'assurer qu'ils ont bien les critères de diagnostic. Donc finalement, ça va être un nombre relativement limité de patients lorsque ces médicaments, si tant est qu'ils viennent, seront sur le marché.
À ce stade, de toute façon, voilà, vous dites si tant est qu'ils viennent, il y a une autorisation aux États-Unis. Où en est-on en Europe et en France?
Alors, le dossier a été déposé à l'Europe. Ouais. On n'aura pas la réponse de l'Europe avant la fin de l'année. Et ce n'est que lorsqu'il y aura la réponse européenne que l'on pourra l'obtenir en France. Et la France est dans l'état d'esprit, si la réponse européenne est positive, de faire ce qu'on appelle un fast track, c'est-à-dire un système de distribution rapide. Ouais. Et les patients français pourraient l'avoir rapidement, mais à la réserve que l'Europe donne un signal positif.
Y a-t-il suffisamment de patients pour les essais cliniques en France, professeur Dubois ?
Alors vous touchez le doigt un problème intéressant, c'est qu'il y a effectivement un peu de difficulté à réaliser ces études pour un certain nombre de raisons. D'abord, ce sont des études qui sont quand même assez lourdes. Deuxièmement, on a des critères d'inclusion qui sont extrêmement restrictifs, où il y a des patients d'un certain âge qui n'aient pas de comorbidité, qui acceptent que l'on fasse des examens. Notamment, j'ai parlé de la ponction lombaire, c'est quand même pas un geste tout à fait anodin. Et puis donc il faut le faire savoir, nous sommes intéressés, bien sûr, c'est très important que nous puissions avoir des patients qui viennent et qui acceptent de pouvoir bénéficier de ces traitements, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment espérer que les médicaments qui sont en développement auront un effet sur leur maladie.
Les médicaments, parce que là, on a parlé d'un traitement en particulier, il y en a d'autres qui sont en développement.
Ah oui, ils arrivent. Alors, il y en a, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Quand vous dites qu'ils arrivent, c'est depuis quelques mois, c'est depuis ces progrès-là, c'est l'affaire depuis l'année dernière.
Si vous voulez, il y a toujours eu depuis 20 ans une recherche sur ces médicaments, ouais, qui sont ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Mais il est vrai que au fur et à mesure que les années passent, les médicaments qui sont en développement s'améliorent. Ouais. Et les données précliniques, c'est-à-dire les données que l'on a sur des modèles animaux, et les études de phase 2, c'est-à-dire les études initiales que l'on a avec ces médicaments, montrent que les derniers qui sont actuellement en train d'être développés sont de plus en plus efficaces et donc laissent espérer que enfin on va pouvoir, dans les années qui viennent, avoir un médicament efficace.
Voilà pour les traitements. On va parler du diagnostic dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on entende le témoignage de Jean au Standard France Inter. Bonjour Jean. Denis, pardon, excusez-moi, j'avais deux prénoms différents sur ma petite fiche. Bonjour Denis.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, plus que la recherche sur les médicaments qui m'apparaît nécessaire, j'aimerais apporter mon témoignage puisque j'ai accompagné ma mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et comme la plupart de ces personnes, malheureusement, ils sont souvent dans les EHPAD, et malgré tous les efforts que le personnel peut déployer, ces établissements ne sont pas du tout adaptés à cette lourde maladie. Et comme d'habitude, la France manque cruellement d'établissements spécifiques à cette maladie, qui pourraient aider justement les familles à mieux comprendre et à mieux accompagner leurs proches.
Merci Denis. Professeur Dubois, vous êtes d'accord avec ce témoignage ?
Ben, c'est-à-dire que
est-ce qu'on progresse tout de même dans ce domaine aussi.
On progresse parce que les EHPAD au début, si vous voulez, c'était plutôt des structures d'hébergement, et puis maintenant c'est devenu de plus en plus des structures de soins du fait que de la lourdeur de plus en plus importante des patients qui y sont reçus. Ouais. Des sujets qui sont reçus. Et donc les EHPAD cherchent à s'adapter à cette modification progressive de la population qu'ils reçoivent. Et le point fondamental, si vous voulez, c'est le ratio personnel-patient. Et donc c'est ça l'indicateur de cette adaptation, c'est-à-dire c'est à eux d'augmenter autant qu'ils le peuvent ce ratio, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnel pour ces patients-là.
Ce village Alzheimer qui a été créé dans les Landes et qui est à l'essai, disons-le comme ça, depuis plusieurs mois, avec l'idée de reconstituer une communauté et d'être à mi-chemin entre une prise en charge médicale mais aussi un entourage social. Est-ce que ça fonctionne, les premiers retours qu'on peut avoir, est-ce que c'est la bonne piste ?
Alors, les premiers retours sont positifs, oui. C'est la bonne piste, avec une réserve, c'est que c'est quand même dans une tranche de patients qui est relativement bien définie, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir de patients trop évolués pour pouvoir bénéficier finalement de tout cet environnement, oui, qui est intéressant.
Question de Marc au Standard. Bonjour Marc.
Ah oui, bonjour.
Vous nous appelez du Pas-de-Calais.
Ma question.
Je vous en prie.
En fait, ma question, elle se résume en un mot, avant que ça se déclenche, est-ce qu'il y a des actions qu'on peut mener personnellement sur le plan de son régime alimentaire, sur le plan sportif, sur le plan cognitif, sur le plan l'entraînement intellectuel, etc., qui nous permettent donc d'éviter ce type de maladie, voire éventuellement de le freiner. Voilà.
Professeur Dubois.
Oui, c'est une très bonne question. Et effectivement, on est beaucoup dans l'avant maintenant, de plus en plus dans l'avant. Merci de poser cette question. Il y a des indications, des données qui montrent que l'on peut grâce à un certain nombre d'actions, comme celle dont vous avez parlé, Marc, qui peuvent retarder l'entrée dans la maladie. En d'autres termes, ça n'empêche pas la maladie. Les lésions sont là. On sait que les lésions, d'ailleurs, anticipent la survenue des symptômes. Mais par un certain nombre d'actions, on peut retarder l'expression de ces lésions et donc retarder l'apparition des symptômes. Pourquoi ? Parce que
l'apparition... Mais pardon, très concrètement, quelles actions ? Quoi ?
Eh bien, par exemple, l'activité physique, par exemple, la stimulation cognitive, par exemple, l'interaction sociale, tout ce qui vous maintient. Le cerveau, alors il y a deux choses, il y a deux réponses. Le cerveau, c'est comme une fleur, il faut l'alimenter. Plus vous lui donnez, faut l'arroser. Oui. Plus vous lui donnez de l'information, plus il traite de l'information, mieux il fonctionne. Et puis deuxièmement, l'effet des lésions va pouvoir être retardé si par ailleurs vous avez une bonne oxygénation cérébrale. Si vous luttez contre l'hypertension artérielle, si vous luttez contre le diabète, si vous luttez contre les ce qu'on appelle les bourreaux du cœur, toutes ces maladies cardiovasculaires qui peuvent retentir sur la circulation cérébrale, ça va faire que, alors que vous avez des lésions d'une autre maladie, de la maladie d'Alzheimer, vous allez les exprimer plus ou moins tôt suivant l'état vasculaire de votre cerveau.
Alors, vous nous disiez à l'instant qu'il y a une phase asymptomatique de la maladie, des lésions mais pas de symptômes. Est-ce qu'on progresse aussi dans le diagnostic ? Et comment progresse-t-on ? Quoi de neuf, si j'ose dire ?
Alors, c'est l'enjeu du moment, bien sûr. C'est cette phase-là, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons maintenant des médicaments qui sont actifs sur les lésions. Donc, évidemment, on se dit, mais alors, c'est génial, il suffit de repérer des gens qui sont à risque, et pour pouvoir les traiter, et peut-être...
Rapidement.
Voilà, et peut-être empêcher l'entrée dans la maladie. Et c'est tout l'enjeu. Mais il y a un problème éthique important, qui est que, on peut mettre en évidence aujourd'hui les lésions car on a maintenant, grâce aux recherches sur les biomarqueurs, des signatures biologiques des lésions dans le cerveau.
Ça veut dire qu'avec une prise de sang ?
Alors, aujourd'hui avec une ponction lombaire, mais demain peut-être avec une prise de sang, nous travaillons là-dessus, nous pourrons peut-être avoir des informations assez précises sur la présence de lésions cérébrales. Mais encore faut-il démontrer que la présence de ces lésions suffit à déterminer formellement un risque de survenue de la maladie. Et c'est tout l'enjeu éthique, parce qu'il n'est pas question de traiter des sujets normaux pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être jamais. Ouais. Et c'est tout l'enjeu, c'est de ce que j'appelle la définition du risque. Il faut que l'on ait maintenant des idées claires sur, lorsque quelqu'un viendra nous voir, a une plainte de mémoire, a une inquiétude, parce que dans sa famille, etc., etc., il va falloir que l'on puisse évaluer très précisément le risque qu'il a de développer la maladie. S'il a 99% de développer la maladie dans les 6 mois, là, je le traite.
Oui.
S'il a 20% de développer la maladie dans les 20 ans, je ne vais pas le traiter.
Oui. Facteur génétique, par exemple, vous prendrez ça en compte également ?
Il faudra le prendre en compte, non pas la mutation génétique immuable qui fait que quand on a l'anomalie génétique, on exprime la maladie quoi qu'il arrive, mais plutôt dans le sens de ce qu'on appelle ces facteurs de risque génétique. Il y a des variants génétiques. Vous avez les cheveux d'une certaine couleur, les yeux d'une certaine couleur. Oui. Bon, eh bien, on a tous des variants génétiques et dont certains vont influer sur le métabolisme de la maladie. Et pour peu qu'on en ait un ou deux qui agissent tous les deux sur la même voie métabolique, ils peuvent faire apparaître la maladie de façon plus précoce. Donc, il faut qu'on étudie justement ces facteurs de risque génétique, c'est-à-dire qu'il y a des grosses études, parce que c'est sur des échantillons considérables, que l'on va pouvoir arriver à connaître ces facteurs de risque, et ça sera certainement un des éléments importants de l'algorithme de prédiction.
Parmi les facteurs de risque, est-ce que le manque de sommeil est un facteur de risque important de développer à terme une maladie d'Alzheimer ?
Alors, la réponse doit se faire de façon mitigée. C'est-à-dire qu'on a montré qu'au cours du sommeil, il y avait, un traitement qui se faisait des anomalies biologiques du cerveau. Donc, le sommeil est un moment où on va filtrer, où on va pouvoir, si vous voulez, améliorer les lésions ou les dégradations qui ont lieu. Bon, ça se fait pendant le sommeil. Donc, on peut considérer que si on raccourcit le temps de sommeil, peut-être que ce processus de nettoyage
se fait moins bien.
Cela dit, on n'a pas formellement montré qu'il y avait une relation entre la survenue de la maladie et la durée de sommeil.
On sait dire, vous savez dire très simplement, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer aujourd'hui ?
Je dirais, c'est une maladie du cerveau qui est liée à des lésions que l'on connaît. Ces lésions débutent le plus souvent au niveau d'une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, raison pour laquelle la maladie commence souvent par des troubles de mémoire, à ne pas confondre avec la plainte de mémoire, qui est un phénomène banal à partir de 60 ans.
Oui.
Là, c'est l'atteinte hippocampique s'accompagne d'un syndrome amnésique que l'on met en évidence dans des tests de mémoire. Donc il faut aller en consultation de mémoire quand on a une inquiétude sur sa mémoire.
Donc vous savez parfaitement aujourd'hui distinguer la maladie d'Alzheimer d'autres formes de ce qu'on appelle la démence sénile.
Ben, si vous voulez, oui et non, puisqu'on considère...
Je pense aux auditeurs qui, voilà, il y a toujours un moment de flou, de gris, et on s'inquiète peut-être inutilement ou peut-être pas.
Si vous voulez, on va retrouver dans la démence sénile à peu près les mêmes anomalies oui. cliniques et histologiques, si ce n'est que c'est une maladie qui apparaît beaucoup, beaucoup plus tard dans la vie des gens oui. et dont l'impact n'est pas le même. Quand vous avez une maladie d'Alzheimer à 60 ans, je vous assure que ça a des répercussions considérables. Évidemment. Parce que ce sont des gens qui sont encore en activité professionnelle, oui. qui ont encore des enfants jeunes, oui. une femme ou un mari jeune. Oui. Et donc ça modifie complètement le projet de vie. Quand cette maladie survient à 85 ans ou 90 ans, évidemment, la répercussion qu'il y aura sera différente parce que tout l'écosystème s'est déjà mis en place.
Bien sûr.
Et ce sont des gens qui finalement ne vont pas avoir un impact considérable dans leur fin de vie.
Merci beaucoup, professeur Dubois, d'être venu dans les studios de France
merci
Inter. Et merci pour vos réponses très claires sur un sujet aussi difficile. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Non à la destruction de la prison de Clairvaux, les bâtiments contemporains.
Oui, la centrale de 1971, le ministère de la Culture est tenté de la raser.
On détaillera cela avec vous. Le feuilleton, une semaine dans la vie de militant de gauche, alors que la campagne est déjà dense de ce côté du paysage politique. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
La chanteuse Clarica en concert demain au Bataclan est à votre micro aujourd'hui Frédéric.
Le Bataclan, ce sera la dernière date parisienne de sa tournée Courrézy. Il reste des places et c'est de la chanson d'Hélène que Clarica a choisi de me parler. Musique de Philippe Sard, paroles de Jean-Loup Dabadie, interprète Romy Schneider et Michel Piccoli.
Je crois que j'ai choisi pour son auteur, Dabadie, parce qu'on oublie parfois les auteurs derrière les interprètes, souvent je trouve, et que je me suis rendu compte que ce monsieur Jean-Loup Dabadie, il a écrit à la fois des chansons qui moi me bouleversent tous les jours, comme des chansons de Reggiani, la chanson de Paul, Le Petit Garçon, Le Temps qui reste, des tubes incontournables de Julien Clerc, et il est l'auteur et dialoguiste scénariste de films qui me bercent depuis toujours, que ce soit les films de Sauter, alors, Les Choses de la Vie, César et Rosalie, Max et les Ferrailleurs.
T'as besoin de monter avec une fille pour jouer aux cartes? T'as pas d'amis?
Si, beaucoup trop.
Ou Les Incontournables, enfin qui pour moi sont des films cultes, films d'Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément. Il n'y a pas deux jours qui passent sans que j'ai une réplique de ces films-là, de Jean Rochefort, qui me viennent ou que j'évoque avec mes proches.
À part ça, quoi de sans ça ?
Il y en a plein, donc c'était incroyable de se rendre compte qu'à un moment donné, un seul homme, et je n'avais pas fait le lien au départ, cristallisait un peu plein d'émotions.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai
par Clarica, Frédéric, c'est donc la chanson du film de Claude Sautet, Les Choses de la Vie.
Chanson composée pour le film, mais qui n'a pourtant jamais figuré dans le film. Et c'est la seule chanson en français enregistrée par Romy Schneider, l'une des actrices préférées de Clarica.
C'est vraiment une comédienne qui chante dans le sens où elle n'essaie pas de surinterpréter, il n'y a pas d'effets vocaux, il n'y a pas de vibes, évidemment. Et en fait, on dirait même qu'elle ne respire pas tellement ça coule. Moi, je suis incapable de la chanter, d'ailleurs, comme elle le fait, c'est-à-dire d'une traite. C'est vraiment le fil se déroule. Pour le coup, l'interprétation est magique, je trouve, parce que du début à la fin, on dirait qu'elle ne s'arrête pas, mais dans une espèce de douceur et de sérénité qui est assez unique.
J'ai... tu ne m'aimes plus.
Qu'est-ce qu'il se passe quand vous entendez cette chanson-là?
Ben, c'est un tableau et on se projette dans ce tableau et on ressent la fin du mois de septembre, le ciel un peu bas, enfin toutes ces choses qui font que ben, c'est la fin de quelque chose et la métaphore c'est aussi la fin d'un amour, les volets se ferment. Donc c'est terriblement beau et terriblement triste. Mais j'adore.
Elle peut vous faire pleurer?
Ah, elle peut me faire pleurer, clairement. Si je m'abandonne un petit peu, c'est imparable, je pleure. Ouais. Ça fait du bien de temps en temps de se laisser aller un petit peu à ça et pour après voilà, reprendre le cours des choses sans pathos.
Les choses de la vie.
Exactement.
Je ne t'écrirai plus, Hélène.
L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermé le livre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne
m'aimez encore?
Oui.
La chanson d'Hélène Romy Schneider, Michel Piccoli. C'était donc le choix de Clarica, Frédéric.
Clarica en concert demain soir au Bataclan et qu'on retrouvera bientôt dans un spectacle hommage à Jean-Loup Dabadie. Ça va s'appeler Les choses de nos vies.
À demain, Frédéric Pommier. Le feuilleton une semaine dans leur vie. Ils auront le choix entre au moins 6 candidats à la présidentielle. Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo et un ou une écologiste, Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau. Comment les militants de gauche abordent-ils cette année particulière? Parole à deux jeunes socialistes d'abord, au micro de Laurence Perron. Le congrès du PS vient de se tenir à Villeurbanne. Le premier secrétaire Olivier Faure défend la candidature d'Anne Hidalgo. D'autres, comme l'ancien ministre de François Hollande, Stéphane Le Foll, n'ont pas renoncé à une candidature. Les militants trancheront lors d'un vote interne le 14 octobre. Les deux du jour, Laurence les a rencontrés lors des journées d'été du PS fin août à Blois.
Merci, gracias.
Merci, gracias.
Merci beaucoup.
Bonjour. On cherche des militants PS.
On est militants PS.
Vous vous appelez comment?
Paul. Comment je suis devenu militant PS? Tout simplement parce que je suis devenu étudiant et j'ai vu à quel point c'était compliqué d'être étudiant quand on n'est pas beaucoup aidé financièrement par l'État. C'est très compliqué si on ne travaille pas. Et ça m'a donné envie de m'engager au Parti Socialiste pour défendre ces idées. En 2015. Oui, encore sous François Hollande.
C'est le moment où tout le monde partait, ouais.
L'avantage d'un parti politique, c'est que c'est démocratique. Donc si on va à l'intérieur pour défendre nos idées, même si on n'est pas forcément d'accord avec les personnes qui dirigent ce parti-là, on peut dire ce qu'on veut et même surger les choses de l'intérieur. Et c'est un peu ça aussi que j'avais en tête en devenant militant du Parti Socialiste. C'est l'histoire aussi, l'histoire du parti.
Le parti Jaurès, le parti de François Mitterrand.
C'est ça, de Léon Blum. Il y a quand même une histoire forte qu'on peut perpétuer.
Le Parti Socialiste devrait avoir un ou une candidate pour cette élection présidentielle. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'orientation du Premier Secrétaire qui souhaiterait que ce soit Anne Hidalgo?
Oui, c'est une bonne candidate, comme il peut en avoir d'autres. On attend que tous se déclarent et on choisira notre choix ensuite.
Où il doit y avoir qui, par exemple?
Je sais pas, pour l'instant c'est un peu caché, mais il y a notamment Stéphane Le Foll, je crois qu'il s'est porté candidat il y a quelques jours. Mais il ne peut en avoir d'autres encore. On n'est jamais à l'abri de quelques surprises.
Bernard Cazeneuve.
Des nouveaux, ou des retours.
C'est ça.
Il y a d'autres femmes.
Après, en fait, moi, je vous avoue que sur la question des personnes, en fait, en gros, là, pour l'instant, on est là aussi pour parler de projets, pour se retrouver entre nous et pour aussi essayer de baser des marqueurs qui vont faire l'union de la gauche, parce qu'on sait très bien que, en gros, au niveau du PS, des écologistes, etc., à un moment, il va y avoir des échanges entre ces personnes-là. On sait aussi qu'on va essayer de voter pour la personne qui va être aussi à la plus à même d'amener nos idées dans l'union de la gauche, parce que que ce soit tous les partis, on est incapable aujourd'hui de prendre le pouvoir. Inès, je suis étudiante à Bordeaux.
Pardon, d'où la première des idées qu'a mis en place Olivier Faure, où justement on discute des idées avant de discuter des personnes et pas faire l'inverse.
En fait, déjà, il faut qu'on se retrouve ensemble et il faut qu'on se dise, en fait, on est socialiste, pourquoi on l'est, pourquoi on est resté, parce que voilà, comme Paul, moi je me suis engagée en 2015 contre la loi de travail. Donc voilà, et je suis restée parce que c'est ça aussi le socialisme en fait. C'est aussi le Parti Socialiste a toujours été fort parce qu'il y a une pluralité d'idées, parce qu'on a su, quand il fallait, montrer nos désaccords et montrer nos accords et toujours se retrouver à la fin, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait, alors que vous êtes engagée en 2015, que vous n'êtes pas partie pour Benoît Hamon et pour Génération?
Parce que moi je suis socialiste et du coup en fait le parti aujourd'hui c'est un outil qui est immense, qui a des élus, qui est implanté dans tous les départements de France et du coup qui a une réelle proximité avec toutes les différentes réalités des territoriales, etc. Et repartir de zéro alors que on aurait pu être beaucoup plus fort ensemble. Diviser pour mieux régner, ça a jamais marché. Et du coup, moi, je voulais rester dans la dynamique collective parce que je pense qu'il y a un grand intérêt aujourd'hui à être militant socialiste. Je pense que les lignes, elles sont là pour bouger. Et c'est en étant le plus nombreux possible, le plus jeune aussi possible, et en essayant de renouveler un peu cette classe politique-là qu'on y arrivera. Et je pense que ça se fait dans le Parti Socialiste. Mais...
Elle est géniale, elle est géniale, c'est la meilleure.
Alors, sinon, vous avez Stéphane Le Foll qui a l'air, l'air partant pour être candidat, mais il n'y a que lui, apparemment. Là.
Le feuilleton réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Une tribune d'historiens et de professionnels du patrimoine appelle ce matin dans le journal Libération à ne pas détruire les bâtiments contemporains de la prison de Clairvaux dans l'Aube. Vous êtes signataire de cette tribune, Jean Lebrun. Cette prison était jadis l'une des plus grandes abbayes d'Europe, devenue en 1808 la plus grande prison française. Une cinquantaine de personnes y sont actuellement détenues. Clairvaux incarne la double histoire de l'enfermement volontaire et subi, écrivent les signataires. Ils y voient aussi un témoignage de l'histoire carcérale depuis la Révolution. Alors pour mesurer ce qui se joue, vous revenez d'abord, Jean, sur un épisode qui a 50 ans cette semaine, 21 septembre 1971, deux détenus, Buffet, Bontemps, tentent de s'échapper. Ils seront condamnés à mort.
Alors durant l'assaut à Clairvaux, meurent l'infirmière Nicole Comte et le gardien Guy Girardeau. C'est Claude Buffet, un condamné à perpète, qui revendique les meurtres. C'est lui qui sans doute a entraîné Roger Bontemps, un condamné à 20 ans, dans leur plan d'évasion. En janvier 72, la peine capitale est prononcée contre les deux hommes par la cour d'assises de Troyes, qu'entoure une foule hostile qui crie « à mort les fumiers ». Le président Pompidou refuse sa grâce et le verdict est exécuté en décembre par les soins d'André Obrecht. On dévoilera plus tard ses émoluments qui auraient été de 600 000 francs de l'époque pour chacune des têtes tombées.
Et c'est, dites-vous, une affaire charnière de l'histoire judiciaire et pénitentiaire.
Bontemps n'y aurait joué qu'un rôle second. Son avocat, Robert Badinter, n'admettra pas le verdict. Son exécution le déterminera à combattre dorénavant pour l'abolition. L'autre défenseur avait à tenir une partie plus difficile encore, c'était Thierry Lévy. Son client, Buffet, ne cessait de dire qu'il désirait la mort et qui, je le cite, « cette mort lui apporterait l'éternité ». Il l'écrira même au président Pompidou. Thierry Lévy plaida donc contre les effets pervers de la prison. Il est vrai que Clairvaux fonctionnait en effet beaucoup plus mal à cette époque qu'aujourd'hui. Le philosophe Michel Foucault résuma à sa manière « nous accusons la prison d'assassinat ». Michel Foucault devient d'ailleurs l'un des animateurs du groupe d'information sur les prisons qui naît cette année-là, 1971, et demande que les conditions d'incarcération en France deviennent enfin dignes d'une démocratie. À Clairvaux, vont s'élever dorénavant des bâtiments, certes ils tranchent esthétiquement avec ceux de l'ancienne abbaye cistercienne, mais ils sont modernes, ils ressemblent aux HLM de l'époque et ils ont l'avantage de permettre l'incarcération individuelle avec un minimum de lumière et de chauffage.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces bâtiments des années 70 ne sont plus en accord avec les normes européennes aujourd'hui en vigueur, raison mise en avant pour la fermeture définitive de la centrale qui doit intervenir d'ici à 2023.
Une fois imposée cette fermeture, l'État semble incapable de définir un avenir pour Clairvaux. Le ministère de la Culture entend cependant jouer sa mission de conservation. Fort bien. Mais il annonce vouloir raser la centrale de 1971. Un bâtiment a déjà disparu, l'autre attend le coup de grâce. Alors on ne sait quels projets seront retenus pour le futur de ce lieu qui a été décisif dans l'histoire. Le conseil départemental de l'Aube en soutient un qui rendrait compte de toute l'histoire pénitentiaire. Le plus mirobolant qu'on peut citer pour le fun est issu d'un grand groupe financier. Il propose un centre équestre, une gigantesque ferme de 1000 chevaux, là où se sont élevés tant de prières et abattus tant de misères. Ce qu'on sait, c'est que Clairvaux est destiné à la visite. Mais qui cherchera les traces de Carlos ou de Guy Georges et celles de tant d'anonymes? Les graffitis, les dessins qu'ils ont laissés ne les trouvera plus. Buffet a peint les semaines précédant son exécution. À la direction du patrimoine du ministère de la Culture, on se veut rassurant. Les traces pénitentiaires les plus anciennes seront maintenues. Encore heureux, mais l'histoire des prisons, c'est un continuum qu'il n'y a aucune raison d'interrompre dans sa présentation.
Et pourquoi pas un musée des prisons?
Il existe virtuellement, en caisse, les gardes des Sceaux ne le savent pas toujours. Christiane Taubira l'a appris de Clairvaux. Nombre de ces caisses s'y trouvent, justement, entreposées dans l'obscurité. Les ouvrir, en exposer les objets, serait utile. Il suffit de considérer les boulets que devaient porter aux pieds les détenus pour réfléchir. Mais non, on semble vouloir effacer ces prisons qu'on ne saurait voir. Quand on en construit, c'est au diable vos verres, et quand l'occasion est offerte de considérer en un même lieu 900 ans d'enfermement monastique volontaire puis d'enfermement contraint, on ne la saisit pas.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré juste après 14h.
Oui, le militantisme façon Greenpeace.
À tout de suite.